l'effet de cette propagande n'est pas produit par des discours, des articles, des tracts. Il s'insinue dans la chair et le sang du plus grand nombre. Saviez-vous qu'il n'y a plus de pauvres aujourd'hui? Mais des gens modestes. On ne parle plus de questions. Par exemple, la question sociale, mais de problèmes que nos spécialistes vont segmenter en série de problèmes techniques. Pour chacun d'eux, ils trouveront une solution optimale, des formules efficaces, oui, mais des mots vidés de leur sens. Un dérèglement de la langue. Langue morte, neutre, envahie de mots techniques. Une langue qui absorbe peu à peu son humanité. Je vois un camion gris traverser la ville. C'est un camion banal, métallisé, qui se dirige vers le puits de mine. À 2 ou 3 kilomètres des dernières maisons, le chauffeur et le convoyeur ne se retournent pas vers l'hublot qui permet de surveiller l'intérieur du véhicule. Ils sont fatigués. Ils ont encore 10 transports effectués. Avant la tombée de nuit, 10 traversées de la ville dans ces conditions pénibles. D'autant plus que dans les premières minutes du transport, il leur faut pousser le moteur plein de gaz pour couvrir ces espèces de cris et de soubresauts bizarres qui vont jusqu'à déséquilibrer le camion. Assez vite, heureusement, tout redevient calme et le transport s'effectue toujours dans le temps, selon la planification prévue. Où vont les camions? Demande l'enfant posté à la fenêtre. À la tombée de la nuit, l'enfant voit les véhicules alignés dans la cour de l'école. Il voit les chauffeurs se passer une bouteille de schnapps. Ils sont harassés, heureux d'avoir terminé la journée qui avait commencé, comme les autres, beaucoup trop tôt. Les convoyeurs, eux, achèvent le compte de la journée et rendent note du jour. L'enfant, il voit son père, l'officier contremaître qui le tape sur l'épaule et blague avec chacun d'eux. L'officier pense que si le temps clément, sans la pluie qui embourbe les camions, pourra peut-être terminer sa mission en fin de semaine. Et son supérieur, l'Obersturmbannführer, celui qui a modélisé l'ordre à 100 kilomètres de là, se félicitera de la bonne avancée des opérations. Si vous demandez à chacun ce qu'il fait, il vous répondra: tout se passe comme prévu. Peut-être avec un peu de retard sur la planification. Il vous répondra dans cette langue morte. neutre et technique qui fait de lui un convoyeur, un camionneur, un unterführer, un contremaître, un scientifique, un directeur technique, un Obersturmbannführer.
Le bruit et la fureur. Fureur. Le bruit et la fureur. Prenons l'antenne comme des pirates, à mener la chute et la fin, la destruction du monde capitaliste. Provoquer des moments de bruit et de fureur révolutionnaire, le grand soir, tous les soirs.
Est-ce que tu vois des pauvres ou des riches ?
Ben, à mon avis, il y aura beaucoup plus de riches. Parce que comme ils font des études, ils auront tous une belle situation.
Est-ce que tu crois que ça existera encore en 2000
les bateaux ? Oh, bien sûr, il y aura toujours des pauvres et des riches, hein. Ça changera pas.
Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu seras ?
Oh, ben, pauvre.
Un pauvre ?
Oh, oui.
Toi, qu'est-ce que tu seras, un patron ou un ouvrier ?
J'espère être un patron.
Ça t'est égal d'être ouvrier ?
Ben, ouais, moi, ça me fait rien. Moi, je travaille, je ramène ma paye.
T'es content ?
Comment est-ce que ça va marcher, la vie ? T'auras un patron ou il n'y aura pas de patron, ou quoi ?
Il n'y aura pas de patron.
Pas de patron ? Ce sera toi, le patron, ou bien ?
Non, quand même pas.
Il y aura des patrons et puis des ouvriers, ça, c'est obligé.
comme toujours.
Oh oui.
Et toi, qu'est-ce que tu seras là-dedans?
Oh, je serai un pauvre ouvrier, comme maintenant.
Pourquoi un pauvre ouvrier?
Parce que pour pas avoir comment les... pour apprendre tout ça.
Est-ce qu'il y a des patrons pour toi dans
Oh non, j'aime pas les patrons. J'aime mieux que tout le monde soit égal, égaux, quoi.
C'est-à-dire qu'il y aura plus de patrons et moins d'ouvriers, étant donné que tout se fera automatiquement.
Qu'est-ce que tu aimerais, vivre dans un monde de patrons ou un monde d'ouvriers?
De patrons.
Et toi, qu'est-ce que tu serais?
Je serais patron.
Et tu n'aurais pas d'ouvriers?
Ah si, un peu, mais pas beaucoup. Il y aura plus de machines.
D'après toi, l'avenir est à qui? À l'ouvrier ou au patron?
Bah, à l'ouvrier. Non pas à tous les hommes.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère.
Dans la grande chaîne de la... C'est vous qui m'avez téléphoné?
Jacques Paolini.
Oui.
Si vous voulez, nous pouvons aller discuter au café.
J'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Surtout que j'ai pas grand-chose à vous dire. Qui vous a parlé du Quatuor?
Plusieurs anciens qui regrettent sa disparition.
Ah bon? Le Quatuor Farm n'est pas un très bon souvenir.
Dans quel sens?
Prenez quatre cartes. Un roi, une reine, un valet, un 6. Ou alors un roi de pique, un 10 de trèfle, un 6 de carreau, un 3 de cœur. C'est une combinaison qui ne peut pas marcher. Il faut abattre ses cartes et passer son tour. Il n'aurait pas de mal à deviner les quatre cartes. Un directeur, une secrétaire, un délégué commercial et un chimiste. La musique n'aime pas cette hiérarchie-là. Le quatuor de Franck fut un massacre.
Monsieur Hughes était le violoniste?
Ouais.
Comment jouait-il?
Avec une tension extrême, une exigence maniaque, un besoin de maîtrise qui fait fuir la musique. Il y a dans tout perfectionniste une effroyable peur du vide. Pourquoi vous intéressez-vous au Quatuor Farm?
J'ai été missionné par la direction pour imaginer de nouveaux projets de fête pour le comité d'entreprise. Et je me suis dit que ce serait intéressant de former un petit orchestre.
Laissez tomber, la musique classique dans les usines, ça n'intéresse personne. D'autres musiques sont plus adaptées. La techno, l'électro, les beats qui détraquent les rythmes cardiaques. Les free parties, vous devez connaître, non? Mon fils est à Polytechnique, il écoute ça tout le temps.
Mais vous n'êtes pas sérieux, de la techno à la SC Farb?
Pourquoi pas? Nos cadres, vous croyez qu'ils écoutent quoi? La violence est un marché florissant. Un défouloir. Une sorte de rituel nécessaire. Souvenez-vous, aux années de bizutage. J'y vais, je suis déjà en retard.
Puis-je vous être utile?
Depuis la restructuration, je ressens le besoin de resserrer les liens entre les employés. De susciter des regroupements, des fêtes. Quelque chose qui pourrait même impliquer les familles. Alors j'étudie le projet de la formation d'un orchestre, ou de plusieurs orchestres, internes à l'entreprise, en prenant modèle sur votre quatuor.
C'est-à-dire?
Sur mes listes, j'ai 26 employés qui jouent d'un instrument de musique. Majoritairement du piano, mais il y a aussi des violonistes, des percussionnistes, des guitaristes. Je souhaiterais convoquer ces gens et leur demander s'ils ont envie de faire des petits concerts. Et peut-être auriez-vous des suggestions pour les répertoires.
Comment appelez-vous votre nom?
K-E-2-S-L-E-R. Kessler.
Votre arrivée dans l'entreprise est postérieure à la dissolution du Quatuor? Par qui en avez-vous entendu parler?
Par d'anciens cadres et par Monsieur Paolini, votre violoncelliste.
J'ai beaucoup entendu parler de vos séminaires. On me dit que nos cadres y pratiquent des techniques de thérapie de groupe, c'est bien ça?
Oui, entre autres choses, oui. L'entreprise ne doit pas rester une valeur abstraite. Sa santé économique dépend de la santé physique, psychique et morale de ses employés. Non, mon objectif est très simple. Pousser nos cadres à dépasser leurs limites personnelles et utiliser cette motivation au cœur du dispositif de production. Il faut que nos cadres redeviennent compétitifs pour que la filiale retrouve le niveau de production des années 92-97. Alors pour certains, c'est un peu difficile.
La France a besoin de vous.
Des applaudissements et même des chefs d'entreprise debout à l'issue du discours de Manuel Valls. À l'université d'été du MEDEF, le Premier ministre s'est fait ovationner. Une phrase aura retenu l'attention, « J'aime l'entreprise ».
On est sans doute en train de voir un tournant où le gouvernement, ou plus exactement le chef de l'État qui a fait plein d'alliances pour arriver au pouvoir, est enfin débarrassé d'alliances purement doctrinales mais contre-productives pour la France. Et dans ces cas-là, à nous, effectivement, de savoir soutenir les actions, si elles sont dans l'intérêt de la nation.
Il en a fait énormément. Il en a fait énormément. Je ne peux qu'être ravi d'entendre ça. Maintenant, je dirais toujours, avec prudence, des mots. Les mots sont le langage, le discours qu'on voulait entendre. Maintenant, des actes.
40 milliards, ce n'est pas rien. Les engagements importants sont pris. Baisse du coût du travail, parce qu'il faut baisser le coût du travail, parce qu'il y a un problème du coût du travail dans notre pays. Suppression de la C3S, baisse de l'impôt sur les sociétés. Ces engagements seront mis en œuvre. C'est nécessaire.
Nous avons applaudi au pacte de responsabilité. Nous avons applaudi au rapport Gallois, à la mise en place du CICE, à la simplification et à toutes les mesures de simplification qu'il a aussi annoncées. Donc tout ça est rassurant parce que c'est du pragmatisme, c'est de la lucidité. Depuis mars, c'est énorme, ça représente 9 millions de salariés sur les 16 millions. Donc c'est énorme et en effet, je crois que nous montons une montagne progressivement.
Il en a fait énormément. Il en a fait énormément.
J'aime les entreprises. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici à la cité. My government is pro-business.
Quelques voitures se présentent à l'instant, voilà, devant le portail. C'est peut-être lui, mais pour l'instant, nous ne le savons pas encore. Je vous propose de vous retrouver vraiment dans quelques secondes pour confirmer cela. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de cris. Toujours impossible de si c'est a priori l'un des candidats. Voilà, François Hollande. François Hollande qui est donc arrivé et va saluer les manifestants.
Je savais que vous étiez là.
Merci, monsieur Hollande.
Merci, monsieur Hollande. On se rencontre pour que votre manifestation ne reste pas simplement de côté.
Je vous remercie,
et que vous puissiez être au moins entendu, même si je ne vous fournirai pas la réponse ici. Mais sachez bien qu'après le 6 mai, nous regarderons le sujet. Je le connais. J'ai déjà rencontré un certain nombre de vos représentants. Je le ferai après. Mais je savais que vous étiez là. Je sais quelle est votre inquiétude. Je sais aussi quelle est votre mobilisation. Et donc sachez bien que, après le 6 mai, si les Français me choisissent, nous aurons rendez-vous.
Ça fait neuf mois qu'on rencontre des interlocuteurs, soit de droite ou de gauche. Ça fait 9 mois qu'on essaye de rencontrer la grande direction de PSA. Ça fait 9 mois qu'on n'a pas de réponse. De l'argent, PSA, il y en a. Des profits, ils ont 11 milliards de trésorerie. Je parle même pas des profits de la famille Peugeot. Donc, 3300 emplois en jeu à PSA, à Citroën-Holley. Je ne parle même pas des intérimaires. Je ne parle même pas des sous-traitants. Vous pouvez compter peut-être 10 000 travailleurs, sans compter les familles, dans le bassin de l'Île-de-France. Donc nous, on tient à vous le dire, monsieur Hollande, pas question qu'un seul emploi ne soit touché sur le site d'Aulnay. Alors jusqu'à maintenant, on n'a reçu que des réponses négatives ou des réponses vagues. Pas question de toucher à un seul emploi sur Aulnay. En période de crise, perdre son emploi, c'est criminel. Alors on vit dans une société où il y a du pognon. On travaille dans une société où les patrons sont riches à milliards. Écoutez, 3300 emplois supprimés, ça, il n'est pas question de le faire. Et on ne le laissera pas faire. Et ça, quel que soit le gouvernement. Alors vous nous dites, vous nous donnez rendez-vous pour après le 6 mai, on verra.
J'aime les entreprises. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici à la cité. My government is pro-business.
Dans les caisses de Peugeot. Le problème à Aulnay, c'est qu'il y a des centaines de salariés qui sont au chômage déjà. Il y a des dossiers de reclassement en interne qui ne sont pas réglés. Il y a 700 jeunes à Poissy qui vont être licenciés au 21 mars. Ça, vous ne le saviez pas ?
Nous avons constaté la semaine dernière, parce que vos élus nous ont alertés, que les engagements n'étaient pas tenus. Donc j'ai immédiatement... Il faut du temps, quand il faut du temps pour le remettre en œuvre. Bon, ça va, vous allez bien? Allez, je termine, j'arrive chez vous, mais j'ai un petit truc à voir.
Sur les marchés financiers, la plupart des bourses dans le monde ont une nouvelle fois fortement chuté. Le CAC 40 a ainsi perdu plus de 3% et se retrouve à son plus bas niveau de l'année.
Fort de la crise financière, l'État a donné des milliards d'euros à l'industrie automobile via la prime à la casse et des prêts exceptionnels. Mais dès l'été 2011, PSA décide en interne de fermer l'usine d'Aulnay en 2014.
Le plan de compétitivité annoncé par PSA a suscité une grande émotion dans notre pays. Je me suis entretenu hier soir et ce matin avec Philippe Varin. Et je peux vous annoncer qu'il n'y aura pas de plan social en France chez PSA.
L'élection présidentielle passée, PSA annonce le 12 juillet la fermeture du site d'Aulnay.
Ce plan, en l'état, n'est pas acceptable. Donc il ne sera pas accepté.
Le 11 septembre, le rapport du groupe d'experts technocratiques nommé par le gouvernement a validé la position de la direction sur la nécessité d'une restructuration. Malgré les réticences des grandes centrales syndicales, les salariés se rendent au salon de l'auto.
C'est pas le patronat qui fera la loi, la vraie démocratie. La vraie démocratie.
La prochaine manifestation, eh bien, on aura le gouvernement qui sera pas à nos côtés. Ça, c'est une chose maintenant qu'on sait clairement. Maintenant, j'appelle mes camarades de PSA Aulnay, mes camarades du groupe PSA, de se retirer, de remonter dans les cars et de se rendre à la porte d'Italie pour aller manifester à la place d'Italie contre les licenciements. Ça, c'est pour les camarades de PSA.
Automne 2012, l'usine d'Aulnay continue de tourner, les salariés et les syndicats sont divisés. Certains espèrent être casés à Poissy. Mais les informations commencent à filtrer. Le nombre de personnes à licencier augmente à plus de 8000 sur l'ensemble du groupe. La direction propose un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, soit environ 10 000 euros pour 20 ans de boîte. Pour pouvoir être classé à Poissy, une grille de points est mise en place. Le mieux, c'est d'avoir 3 enfants et d'être divorcé ou veuf. Certains postes proposés en reclassement sont payés au SMIC, soit environ 500 euros de moins que leur salaire actuel. Enfin, afin de redorer le blason de la marque, PSA propose 340 000 euros à l'humoriste Didier Porte pour un spot radio. 16 janvier 2013, les salariés décident d'occuper l'usine.
Là, vous ne voyez pas avant. Avant, si vous imaginez que sur le même pas, il y avait au moins une dizaine de personnes qui travaillaient. Ouais. Avant. Maintenant, c'est une personne là que ça démarre tout seul. Si vous imaginez que vous passez 37 ans dans une entreprise et on vous jette comme moi, je vais le jeter thermocodoré.
Ouais, mais ça, c'est.
Non,
c'est
non.
Souvent.
Ce n'est plus une question d'agent, c'est un principe. Et pour moi, c'est un principe. J'aimerais quitter par la grande porte et non pas par la petite porte.
Les salariés de l'usine d'Aulnay viennent de toutes les banlieues populaires de la région parisienne. Il y a aussi des intérimaires exclusivement noirs, vieilles techniques de division au sein des entreprises et environ 10 000 emplois en sous-traitance. L'usine d'Aulnay dispose d'un appareil de production parmi les plus modernes d'Europe. Deux raisons semblent avoir motivé la fermeture du site d'Aulnay. La résistance de ses salariés, l'usine est une des seules du groupe où on peut distribuer des tracts à l'intérieur, et la valeur du terrain de 168 hectares, à côté de la 1, du centre commercial au Paris Nord, du parc d'exposition de Villepinte et de l'aéroport de Roissy. Ce terrain était estimé à 300 millions d'euros avant l'annonce de l'arrivée du métro avec le Grand Paris. Le 21 janvier 2013, prétextant de la neige et de dégradation dans l'usine, la direction ferme le site pour une semaine après avoir porté plainte pour violence. 10 jours plus tard, quand le site est rouvert, il y a une centaine de vigiles qui filtrent les entrées, pratique illégale, ainsi qu'une armée de nouveaux contremaîtres appelés en renfort d'autres sites. Malgré tout, la production ne repart pas, l'usine reste en grève. Les grévistes continuent leurs actions, péage gratuit, visite d'autres usines et actions médiatiques, systématiquement entourées par les CRS. Il faut dire que l'annonce des fermetures d'usines s'accumule, il faut absolument contenir le mécontentement pour qu'il ne fasse pas tache d'huile.
Mais je veux insister sur un grand projet et qui illustre ce que peut être le partenariat franco-chinois à l'avenir. Là, il ne s'agit plus de vendre simplement, il s'agit d'investir ensemble, de nouer un partenariat entre des entreprises qui sont dans leur domaine excellente. C'est ce qui s'est conclu notamment pour l'automobile à travers l'accord qui a été trouvé entre Dongfeng, Peugeot et l'État français et qui va nous permettre d'avoir un constructeur à taille mondiale qui va pouvoir être présent sur tous les marchés grâce à cette coopération excellente entre la France et la Chine.
S'il avait pu renvoyer encore un peu plus de CRS, il l'aurait fait. Lui, Peugeot, lui, c'était massacrer les ouvriers et puis à moi l'usine, quoi. Agrandir, agrandir, lui. Pour lui, l'ouvrier, c'est un esclave et puis c'est tout, hein.
À l'intérieur de l'UMM, c'est-à-dire de l'organisation patronale
qui dirige la métallurgie, Peugeot occupe une place prépondérante. Il occupe une place prépondérante là, et dans le pays de Montbéliard, dans le territoire de Belfort, dans tout ce contexte industriel, Peugeot a aussi une place prépondérante. Et quand Peugeot lâche, quand Peugeot ouvre ses fenêtres et s'enrhume, tout le monde éternue dans la région. Or là, en mai-juin 68, et notamment dans les négociations qui étaient intervenues avant le 11 juin, Peugeot avait refusé systématiquement de donner quoi que ce soit et de répondre en quoi que ce soit aux revendications qui étaient posées. C'est ce qui explique de façon très rapide que, d'une part, la métallurgie au plan national avait une position très dure parce qu'elle représente un pourcentage très important de la masse des salariés et que Peugeot dans la région devait avoir une position très dure, d'autant plus dure que dans le passé, Peugeot s'était toujours fait une vaillance et une gloire de casser et de maîtriser à lui seul les conflits qui intervenaient à Sochaux.
Alors, levé à 2 heures du matin, départ des bus, 3 heures, arrivé 3h30. La sirène, 4h. Le casse-croûte, 6h30. De 6h30 à 1h15, terminé. 10 minutes de dépannage, un point, c'est tout. La semaine après, changement de décor. Départ des bus, midi. Arrivée, 1h. La sonnerie, 1h15. Travail, 10h30 ou 11h moins le quart. Rentrée à minuit, avec une demi-heure de casse-croûte. Si bien que vous en avez l'estomac tout retourné que vous arrivez à manger 2 ou 3 jours par semaine. Mais vous êtes 2 jours dans la semaine où vous mangez absolument rien. Le lundi, le mardi, il faut mieux pas y compter. Pendant 10 ans, j'ai fait ça. Il y en a 18 000 qui le font chez Peugeot. Il y en a 18 000 qui le font tous les jours. Il y en a 18 000.
Alors moi je me suis trouvé vraiment en tête de ligne, voilà. Tout en est reparti. Puis c'est de là que une explosion qui s'est produite, hop, je me suis retrouvé en l'air, les 4 fers en l'air. Puis au moment de me relever, plus de pied. Je me suis aperçu que j'avais plus de pied. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé quand même, puis je suis parti sur une patte, en sautant. J'ai fait jusqu'au feu rouge, là, jusqu'au feu de la bretelle, quoi. Il y avait une quinzaine de mètres. Et puis de là, j'ai refait encore un autre coup, une explosion. Nous allons renvoyer encore une gilet. Alors j'avais des éclats partout. J'en avais là, oui, je crois qu'il était là. Il nous a arrosé une deuxième fois, quoi. Alors c'est les secouristes qui sont arrivés, qui ont fait arrêter les CRS. Ils ont dit arrêtez, laissez ramasser nos blessés, quoi.
Répression, répression. c'est écrasé gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Pression, pression, pression. Vous êtes qu'un passant. Mais maintenant, pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. Répression, répression, répression. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers. Si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Répression, répression, répression. Douce majorité silencieuse. Pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? Pas de répression. C'est pas un homme convenable, a refusé le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qu'il fout sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste. Nous, c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Répression, répression, répression. Liberté de la presse, quelle ivresse! On couche avec les princesses par procuration. Journaux à grand tirage affichent dans le métro, sur les grands boulevards, font rage de fesses et seins roses bonbons. Mais attention, attention, attention! Faut pas faire l'idiot national ou international. Faut pas vendre des journaux, rencontrer les marchés, faut laisser circuler la majorité. Répression, répression, répression. Clac ! Les vieillards sont atterrés par les jeux de questions posées par leur canard préféré. Salut les cops ! Hein ? Manger de la soupe fait grandir, vrai ou faux ? Bla 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 bla. Vite! La masturbation rend fou. Oh, vrai ou faux? Plac! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiririkira, 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 le dernier. On n'est pas chez les colonels. On veut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison. Ou si flotter n'importe quelle connerie de la télévision, on nous mettra pas en prison. Ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, où va-t-on, où va-t-on? C'est vrai. Faut faire le procès de la vitesse. Vietnam en deux temps trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. Vous êtes présumé coupable par le juge d'instruction. Attention, attention, va-t-on, va-t-on. Et si ça continue comme ça, un jour on verra peut-être les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression, suspicion, où va-t-on, où va-t-on. Jusqu'où ira-t-on, 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 ira-t-on.
critiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui en entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils manquent de bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats. En vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ensuite avoir lieu. Et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force, la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire, il faut par tous les moyens de l'activité possible, remplacer la nature partout où elle peut être remplacée.
Pendant un mois, nous avons parcouru Paris en ligne droite. De même que notre itinéraire pouvait être fait de tous les kilomètres noués bout à bout que les prisonniers accomplissent en rond entre les murs des cours et ceux des cellules, notre regard s'est forcé d'être celui d'un de ces prisonniers au premier jour de liberté lorsqu'il essaie de comprendre comment vivent ces phénomènes, les hommes libres. Nous avons rencontré des hommes libres. Nous leur avons donné la plus grande place dans ce film. Ceux qui sont capables d'interroger, de refuser, d'entreprendre, de réfléchir, ou simplement d'aimer. Ils n'étaient pas sans contradiction, ni même sans erreur, mais ils avançaient avec leurs erreurs. Et la vérité n'est peut-être pas le but, elle est peut-être la route. Mais nous en avons croisé d'autres, en grand nombre, sur lesquels le regard du prisonnier s'arrêterait un peu incrédule. Car, chez cela, la prison est à l'intérieur. Les hommes se sont toujours su mortels. Ils en ont même tiré des façons inédites de rire et de chanter. Est-ce parce que la beauté est mortelle et qu'aimer un être, c'est aimer le passage d'un être ? Les hommes ont inventé la naphtaline de la beauté. Cela s'appelle l'art. C'est quelquefois un peu erratique dans ses formes, mais c'est quelquefois très beau. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, avez-vous peur de Fantômas ? Est-ce, comme on le dit beaucoup, que vous pensez trop à vous? Ou n'est-ce pas plutôt qu'à votre insu, vous pensez trop aux autres? Peut-être sentez-vous confusément que votre sort est lié à celui des autres, que le bonheur et le malheur sont deux sociétés secrètes, si secrètes que vous y êtes affiliés sans le savoir, et que sans l'entendre, vous abritez quelque part cette voix qui dit « Tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche. » Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libre.